Bienvenue sur Coober. Comment développer votre charisme pour évoluer en société avec une longueur d'avance sur tout le monde? Pour Félix Boussa, le monde se divise en deux catégories. Les manipulés et les manipulateurs. D'un côté, ceux qui se laissent souvent berner. De l'autre, ceux qui savent cerner et anticiper les réactions de leurs interlocuteurs et ne se font jamais avoir. Comment? En développant des stratégies de mentaliste, c'est-à-dire la capacité à lire dans l'esprit des autres et à analyser leur comportement. Rassurez-vous, il n'est pas question ici de tours de magie ou de trucs de sorcier, mais simplement de révéler les astuces manipulatoires utilisées par ceux qui veulent réussir dans la vie, et éviter de se faire manipuler. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le mentalisme n'est pas un don et ne s'improvise pas, mais il s'apprend par des techniques précises. Il faut beaucoup de confiance en soi pour savoir manipuler les autres. Le manipulateur peut vite se retrouver dans la position du manipulé et vice-versa. Le mentalisme est une pratique utile au quotidien. Chapitre 1. Le mentalisme n'est pas un genre de spectacle, c'est avant tout une philosophie de vie. Êtes-vous prêt à changer complètement votre vision de la vie? Attendez-vous à être surpris. Le terme de mentalisme a fait son apparition en France avec la série télévisée américaine The Mentalist en 2014. Vous savez, avec ce héros blondinet, beau, séducteur, charismatique, Patrick Jane, qui collabore avec la police en utilisant des techniques variées pour découvrir les pensées des suspects et comprendre leurs pulsions meurtrières, psychologie, hypnose ou encore analyse psychomotrice. Le mentaliste se sert de la science et de la psychologie pour se mettre en position de force vis-à-vis d'un interlocuteur ou d'un groupe de personnes. Pour Félix Boussa, qui a travaillé plus de 10 ans dans la pub et s'est retrouvé confronté à des manipulateurs de tout calibre, inutile d'aller chercher midi à 14h. Il ne faut voir dans le mentalisme aucune spiritualité, religion ou ésotérisme. C'est un mode d'action très pragmatique, avec des techniques à appliquer minutieusement pour obtenir les résultats escomptés. La plupart des personnes qui s'intéressent au mentalisme et le pratiquent le font pour 5 bonnes raisons. La première, retrouver confiance en eux. La deuxième, travailler leur charisme et leur impact sur autrui. La troisième, lire dans les pensées. La quatrième, apprendre à manipuler leurs interlocuteurs. La cinquième, se protéger des manipulateurs de tout ordre. Au-delà de son intérêt pratique et utile, le mentalisme permet de modifier votre vision de la vie et de réfléchir sur votre rapport au monde et à votre environnement. Ni sorcier, ni gourou, le vrai mentalisme est un sceptique qui refuse toute forme de dépendance ou d'influence psychologique et intellectuelle. Il cherche à comprendre, sans émettre de jugement. Un bon mentaliste ne doit rien à personne. Il se doit seulement d'être honnête avec lui-même et indépendant de tout courant idéologique. Car plus il est libre, moins il est influençable. À retenir, le mentalisme consiste à mettre en action des techniques concrètes, issues de la science et de la psychologie. En devenant mentaliste, vous apprendrez à développer votre confiance et votre charisme, à lire dans les pensées d'un interlocuteur, à le manipuler et à vous protéger vous-même des manipulateurs. Pas mal, non? Chapitre 2. Il existe de nombreuses techniques pour apprendre à manipuler les gens. Comment obtenir des autres ce que vous souhaitez? En toute amitié, bien sûr. De même que l'aïkidoka, mais si, vous savez, le mec qui fait de l'aïkido, utilise la force de son adversaire, le mentaliste se sert des pensées de l'autre pour échapper à son emprise et imposer les siennes. Il connaît toutes les techniques pour manipuler les gens à leur insu. Alors, la manipulation peut servir à différentes choses, comme obtenir un service, faire admettre une idée, influencer, engager, mais aussi parfois conditionner et berner les personnes qui n'y voient en général que du feu. Petit tour d'horizon des ficelles du métier. Avec l'effet Barnum, faites accepter à quelqu'un une description floue et approximative de lui-même, en lui disant par exemple « Oh, je suis sûr qu'on vous dit souvent que vous êtes romantique, non ?» Ou « Mais je sais que tu as besoin d'être aimé. » Mettez l'accent sur les informations positives que les gens acceptent d'emblée et dont ils se souviennent. Plus votre autorité naturelle est importante, plus la personne sera encline à vous croire. Pas étonnant si l'effet Barnum est la méthode la plus employée, et notamment dans la rédaction des horoscopes. Ça vous parle? Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La demande singulière. Demander un service à quelqu'un en stimulant sa curiosité. Exemple, peux-tu me prêter ta voiture ce soir? Elle fait moins de bruit que la mienne. Je passe te la rendre tout de suite après. En intriguant l'interlocuteur, mais pourquoi a-t-il besoin d'une voiture qui fait moins de bruit? Vous l'incitez à accepter. Le « parce que ». Demandez un service à une personne en justifiant votre demande. Exemple, peux-tu me prêter ta voiture ce soir? Parce que j'en ai besoin. Même si votre justification est vague, l'interlocuteur a du mal à refuser sans éprouver une pointe de culpabilité, grâce à ce simple « parce que ». Le regard droit dans les yeux. Cherchez le regard de votre interlocuteur pour donner l'impression d'une maîtrise totale de la situation. Ce procédé non-verbal est imparable pour avoir l'ascendant sur autrui. L'engagement. Demandez d'abord un petit service qui ne coûte rien à quelqu'un, puis, dans la foulée, vous lui demandez un service plus important qui engage cette fois votre interlocuteur. Exemple. Avez-vous l'heure, s'il vous plaît? Puis. Avez-vous un euro, s'il vous plaît? C'est pour le parc-mètre. Vous mettez la personne dans une situation où elle a du mal à refuser. Vous l'avez coincée dans la discussion. Cette technique à double détente est d'autant plus efficace que votre deuxième demande est cohérente avec la première. La technique de la preuve sociale. Faites prendre une décision ou faites faire quelque chose à une personne indécise. Il y a fort à parier qu'elle va calquer ses réponses ou ses actions sur celles de personnes plus assurées qu'elle, par une sorte de copier-coller socio-comportemental. Le syndrome de Groger. Faites accepter un concept, une idée, une doctrine, sous prétexte qu'ils sont prouvés scientifiquement, donc irréfutables. Le piège intellectuel par excellence, du nom de celui qui l'a découvert en 1928, Jacques Groger. La loi de, ou la règle de, sont des termes souvent utilisés en guise de caution scientifique pour tenter de faire croire à l'incroyable. L'exemple le plus fameux est la référence à la loi de l'attraction, qui n'a rien d'une loi scientifique et que l'on retrouve fréquemment dans les ouvrages de développement personnel. L'expérience de Milgram, dominer quelqu'un en revendiquant une supériorité sociale, économique, professionnelle, vraie ou fausse. La personne aveuglée s'efforce d'agir dans le sens souhaité par le manipulateur. Une expérience testée et démontrée à plusieurs reprises. Un comité de scientifiques demande à un individu d'appuyer sur un interrupteur qui délivrera des chocs électriques à une victime. La présence et l'autorité des scientifiques exercent une telle pression sur l'individu qu'il se plie à leur volonté, sans remettre en question le bien fondé de son action. L'effet halo. Profitez de la première impression pour renforcer l'expérience de Milgram. Si lors d'une première rencontre vous semblez autoritaire et supérieur à une personne, il y a fort à parier que cette première impression persistera. La synchronisation PNL. Utilisez la programmation neurolinguistique en imitant, subtilement, il ne s'agit pas de faire de mime, les gestes de votre interlocuteur. S'il se passe la main dans les cheveux ou incline la tête. Le but n'est pas de copier comme un simple reflet, mais de s'adapter à lui et à ses intentions, afin de le mettre à l'aise. Vous créez ainsi un lien d'échange commun et harmonieux. Barack Obama réajuste sa cravate lors d'un rendez-vous présidentiel et toc, Vladimir Poutine en fait de même très discrètement. Le réflexe de Pavlov. Connaissez-vous Pavlov? En faisant tinter une cloche à chaque fois qu'il nourrissait son chien, Pavlov est parvenu à programmer l'animal qui, au moindre tintement, commençait à saliver. Cette technique peut être appliquée aux êtres humains. Utilisez un élément qui servira de catalyseur externe pour ancrer une émotion chez un interlocuteur. Il vous reste ensuite à déclencher ce catalyseur pour mettre la personne dans l'état émotionnel favorable à sa manipulation. La technique de la dissonance cognitive. Placez une personne face à ses contradictions pour mettre à jour les tensions qui dissocient la portée de ses paroles et celle de ses actes. Un fumeur sait qu'il met sa santé en jeu, mais il fume quand même. Face à ce paradoxe du convaincu, il est facile de déclencher le besoin de cohérence chez votre interlocuteur. Les statistiques. Accompagnez votre argumentation de chiffres, de pourcentages et d'autres manipulations socio-économiques. Les statistiques sont rassurantes et peu souvent vérifiées, mais donnent une garantie de sérieux à n'importe quel discours. À retenir. Le mentaliste se sert de différentes méthodes de persuasion, verbales ou non-verbales, pour prendre l'ascendant sur ses interlocuteurs, échapper à leur manipulation et les manipuler à leur insu. Récapitulons. L'effet Barnum utilisé par les horoscopes. La demande singulière. Peux-tu me prêter ta voiture, si silencieuse? La technique du « parce que ». Mais aussi le regard droit dans les yeux. L'engagement où l'on demande un petit service avant un gros. La preuve sociale lorsqu'on copie le comportement d'une personne plus charismatique que soi. Le syndrome de Groger confirmé par une récente étude scientifique. Hein? Vous vous souvenez? Les études scientifiques tellement fiables. Et aussi la terrible expérience de Milgram qui utilise l'autorité naturelle de certaines entités. Et l'effet halo qui renforce l'expérience de Milgram. Sans oublier bien sûr la PNL, le réflexe de Pavlov, la dissonance cognitive, celle du fumeur par exemple. Et enfin, les statistiques. Chapitre 3. Un bon manipulateur est d'abord un être sûr de lui.
Fais confiance, crois en moi.
Pardon. Où en étais-je ? Comment inspirer la confiance nécessaire pour obtenir celle de vos interlocuteurs ? Avoir confiance en vous. En impose dans toute relation. Qui dit manque de confiance dit blocage relationnel. Dans tous vos échanges, professionnels, familiaux, amicaux, amoureux, un équilibre doit se créer d'abord en vous-même, puis avec votre entourage. Un manipulateur ne peut pas être faible, c'est-à-dire influençable, puisqu'il a besoin de force pour tirer profit des faiblesses d'autrui. L'assimilation et la mise en pratique du mentalisme reposent essentiellement sur une confiance en vous maîtrisée. Elle passe en premier lieu par la communication orale. Voici quelques trucs et astuces pour vous entraîner à renverser la vapeur dans toute situation et apprendre à avoir le dessus sur votre interlocuteur. La méthode des concepts opérationnels. Choisissez plusieurs mots au hasard et intégrez-les dans des phrases dont le sens global n'est pas évident de prime abord. L'essentiel est qu'un thème de fond soit défini, peu importe si les phrases sont sans queue ni tête. Faites-vous plaisir. Cet exercice a pour but de vous délier la langue et d'assouplir votre pensée pour avoir réponse à tout. Vous êtes prêts ? Allez, on se lance. Exemple avec les mots bureau, montagne, sandwich, cornichon, poisson rouge. Sur la montagne, un poisson rouge mange un sandwich en regardant un cornichon au bureau. Allez, à vous maintenant. Essayez avec les mots étoile, fauteuil, tomate, branche. Prenez votre temps. Rien ne presse. À vous de jouer. Je vous redonne les mots. Étoile, fauteuil, tomate, branche. Autre astuce pour travailler votre confiance en vous, le travail de la voix. Entraînez vos cordes vocales pour captiver votre auditoire. C'est l'exercice par excellence pour augmenter votre charisme. Selon Félix Boussa, le pouvoir de la voix, du timbre, des intonations, représente 60% du charisme optimal, encore des statistiques. Une voix dite « de gorge », comme celle de beaucoup d'Américains, est plus puissante et capte plus facilement un auditoire. Des artistes tels que Jean Reno ou Gérard Depardieu, faute de physique avantageux, ont leur voix pour séduire les spectateurs. Enregistrez-vous en train de lire un texte. Exercez-vous à parler à des interlocuteurs imaginaires, devant la glace ou au volant, peu importe. Avoir une voix charismatique demande pour commencer de fournir les efforts suivants. Évitez de dire « à tout bout de champ ». Du coup, ne pas parler trop fort, vous exprimer lentement et supprimer le langage familier. Oh, tu sais quoi ? On arrête. À retenir, la confiance en soi ne s'improvise pas. Elle s'acquiert par un entraînement de la voix et de la pensée à la communication orale. Chapitre 4. L'apprentissage de la manipulation passe forcément par la pratique. Pas le choix, il va falloir vous lancer. Comment vous exercer en situation réelle avec des inconnus ou avec des proches ? La manipulation ne se résume pas uniquement dans le fait de profiter d'une situation ou d'amener une personne à agir selon vos souhaits. C'est aussi et avant tout un moyen d'analyser le fonctionnement de vos interactions sociales. Dans cette optique, dénuée de toute déviation malsaine, voici quelques exercices permettant d'améliorer vos échanges sociaux sans vous faire avoir par vos interlocuteurs. Premier exercice. Influencer un inconnu sur un achat. Vous pouvez faire l'expérience suivante dans un espace de vente de type supermarché, centre commercial, Fnac ou autre. Repérez une personne indécise sur le choix d'un produit. Approchez-vous d'elle et prenez sans hésiter le même produit ou celui d'une autre marque. Arrangez-vous pour engager la conversation. Le fait qu'un inconnu argumente en faveur d'un produit plutôt que d'un autre entraîne l'adhésion totale de la personne influencée. Pour cela, rien de plus simple. Faites en sorte que le futur acheteur puisse se projeter avec le produit conseillé et pas un autre, en lui disant « Ah non, alors là, celui-ci est bien meilleur parce qu'il est équipé du nouveau type de technologie, vous savez, le B37. Mmh. » Ah ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette marque, moi je vous la déconseille. Et souvenez-vous de ne pas lâcher la personne du regard pour lui inspirer confiance. Deuxième exercice, déclencher volontairement une angoisse chez un interlocuteur. Provoquer intentionnellement de l'anxiété dans le but de la soulager assez rapidement, de manière à ce que la personne accepte ce qui lui est demandé. Cette technique un peu sadique, qui consiste à faire souffrir l'autre temporairement parce que ça fait du bien quand ça s'arrête, fonctionne à merveille pour faire admettre des sollicitations difficiles. Un truc vieux comme le monde dont les hommes politiques se servent souvent. Mes chers concitoyens, en 2018, les impôts vont augmenter de 30%. Puis, finalement, ça ne sera que de 15%. Ah. Troisième exercice, l'aveu ou le secret forcé. Démêler le vrai du faux. Tout le monde ment, au moins une fois par jour, avec plus ou moins d'impact. S'entraîner à démasquer un menteur est simple. Il faut lui poser une question à laquelle il ne s'attend pas. Imaginons que vous soupçonnez un ami de vous mentir. « Ouais, ouais, je serai à la soirée, Marc, t'inquiète. » Plutôt que de lui demander ensuite « Tu viens, hein, c'est sûr, hein ?» Essayez plutôt « Pourquoi tu ne veux pas m'accompagner ?» Dans le premier cas, il choisit la facilité et acquiesce. Dans le deuxième cas, il est pris au dépourvu et ne peut dire que la vérité ou mentir bien maladroitement. Mentir à des inconnus permet de s'entraîner à maîtriser n'importe quelle situation. En inventant des petites histoires sans conséquences, votre esprit devient très souple. Quatrième exercice, l'intégration de nouveaux réflexes. Induisez un réflexe émotionnel chez l'autre grâce à une action ou une parole précise. Cette technique connue sous l'appellation d'ancrage ou réflexe de Pavlov vous permet de jouer sur les émotions de vos interlocuteurs. Par exemple, lorsqu'un proche est triste, le fait de poser une main sur son bras entraîne dans son esprit une association tristesse-touchée-consolation. Bien sûr, l'ancrage doit rester inconscient chez l'interlocuteur, sinon ça ne marche pas. À retenir. La pratique des techniques de manipulation est indispensable pour comprendre les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu dans toute relation sociale. Vous pouvez débuter avec ces quatre exercices. Le premier, en influençant un inconnu sur un achat. Deuxième, en créant une angoisse chez un inconnu, pour ensuite la désamorcer. Ah oui, ne le laissez pas dans une situation d'angoisse, c'est pas cool. Troisième, en prenant au dépourvu un menteur. Quatrième, ou en ancrant de nouveaux réflexes sur une personne. Chapitre 5, ne plus se faire manipuler est à la portée de tous. Après tout ça, je suis sûr que vous n'avez pas franchement envie de vous faire manipuler. Alors, comment éviter les tentatives de manipulation? Face à une personne fermée ou bardée de convictions, n'importe qui peut se retrouver fortement déstabilisé et manquer de répartie. Pourtant, avec un peu d'entraînement, il n'est pas difficile de contrer ce genre de personnalité, tout en lui faisant croire qu'il a raison. C'est très important. Pour prendre le dessus et le retourner comme une crêpe, vous pouvez utiliser à la fois la communication verbale et non verbale. Premièrement, demandez à votre interlocuteur de changer de position pour rompre son équilibre en le faisant sortir de sa zone de confort. S'il est assis, faites en sorte qu'il se lève. Il aura l'impression d'un ordre inconscient auquel il ne peut échapper. Ensuite, tentez d'infléchir son opinion tout en respectant ses positions. Argumentez afin de le faire hésiter. Enfin, faites croire à l'autre qu'il est à l'origine de la manipulation et qu'il vous a convaincu avant de le manipuler à son tour. Ah, ce que vous m'avez dit est très pertinent. Néanmoins, je pense que plus vous impliquez la personne dans le processus de manipulation, plus elle est réceptive, car son ego est mis en valeur. C'est l'arroseur arrosé. À force de pratique, le manipulateur finit par connaître la plupart des pièges tendus par les autres manipulateurs, et il sait s'en préserver. Pour exercer constamment votre esprit critique, ayez les réflexes suivants. Méfiez-vous de tout ce qui a une valeur pseudo-scientifique, les sondages, les lois et tout ce qui s'apparente à une science sans en être une, comme l'astrologie par exemple. Ne croyez pas au pouvoir de la majorité et restez froid devant toute forme d'engouement populaire. Ne faites pas constamment référence à votre expérience personnelle en termes de comparaison. Réfutez le principe de cause à effet. Ceci n'explique pas forcément cela. Ne vous inspirez pas des théories qui se justifient. Par elle-même, le fait que Dieu est cité dans la Bible n'est pas une preuve de son existence. À retenir, pour échapper à la manipulation, il faut faire changer de position votre interlocuteur, au sens propre comme au sens figuré. Chapitre 6, la différence entre manipulation et mentalisme réside dans l'utilisation qui en est faite. En quoi les buts du mentaliste se distinguent-ils de ceux d'un simple manipulateur ? Manipulation et mentalisme utilisent les mêmes outils, mais n'ont pas les mêmes objectifs. Un manipulateur veut vous convaincre et vous contrôler, alors que la finalité du mentaliste est la connaissance de son interlocuteur par une observation minutieuse et une écoute attentive. Il dispose pour cela de plusieurs méthodes d'investigation et d'analyse, parmi lesquelles ce que les anglo-saxons appellent le profiling. Le but est d'observer attentivement vos interlocuteurs afin de cerner leur personnalité, leurs intentions, leur état d'esprit, etc. Le mentaliste doit donc affûter son sens de l'observation, mais aussi posséder de fortes capacités de déduction. C'est en analysant le maximum de détails que vous réussirez à anticiper les actions et les réactions d'autrui. Le diable se cache toujours dans les détails. Faites l'exercice d'observation suivant. La dernière personne à qui vous avez dit bonjour, était-elle un homme ou une femme ? Vous vous souvenez ? Quelle était la couleur de son pull ? Quelle était la couleur de ses cheveux ? Dans le profiling, l'observation de votre environnement va de pair avec une méthode complémentaire d'analyse non-verbale, basée sur la programmation neurolinguistique, l'étude des micro-expressions du visage de votre interlocuteur. Celles-ci en disent plus long que vous ne croyez sur les émotions furtives, mais réelles, telles que la joie, la peur, la colère, l'ennui. Scrutez discrètement ses mains, sa posture globale et les traits de son visage. Ils ont aussi leur mot à dire. Chaque mouvement correspond à l'expression d'une émotion bien précise. Le mentaliste peut ainsi rapidement cataloguer une personne grâce à l'étude de son comportement. Entraînez-vous sur des inconnus afin d'être libre de toute forme d'affect. Cette observation, complétée par l'écoute attentive des mots et du discours d'un interlocuteur, est appelée le cold reading. Une lecture à froid, qui permet de préciser le portrait psychologique d'une personne, mais aussi, plus simplement, de se mettre au diapason avec elle dans un but relationnel défini, de séduction, de vente, etc. En combinant plusieurs tactiques, il est facile de vous faire une idée plutôt fine de la personnalité de votre interlocuteur, de définir à quel groupe social il appartient et de vous concentrer sur les émotions qui l'animent. À retenir, si le mentaliste utilise les techniques de manipulation, c'est pour acquérir une connaissance approfondie d'autrui à travers l'observation et l'écoute, sans arrière-pensée ni intention de nuire. Chapitre 7. Un mentaliste est un manipulateur qui ne croit pas aux théories populaires manipulatoires. À votre avis, quelles sont les rumeurs qui ont la peau dure ? Parmi les nombreuses croyances populaires ou légendes urbaines, certaines sont les bêtes noires des mentalistes. Ces convictions bien ancrées dans l'esprit de certains ne reposent sur aucun fondement, mais continuent d'alimenter les idées préconçues sur le sujet. En voici quelques-unes.
Non mais ouais, les personnes créatives utilisent leur cerveau droit et les cartésiens matérialistes leur cerveau gauche.
Rien n'est prouvé scientifiquement et cette idée est constamment remise en question.
Ah ouais, certains ont une mémoire photographique plus développée que d'autres.
Rien de plus faux. Il s'agit ni plus ni moins que de la capacité à mémoriser des emplacements de contenu.
Le cerveau se divise en trois zones, reptilienne, limbique et humaine.
Cette assertion n'a aucune valeur sur le plan biologique.
Non mais je sais, si votre interlocuteur oriente son regard vers la gauche, il dit la vérité, vers la droite, il ment.
Totalement fantaisiste, il n'existe pas de preuves scientifiques non plus.
Mais ouais, l'étude du langage corporel ou de l'écriture donne des résultats fiables.
Attention, les systèmes d'analyse tels que la synergologie et la graphologie reposent sur la subjectivité et non sur l'objectivité.
Ouais, les tests de personnalité basiques en disent long sur vous.
Ne prenez pas au sérieux les tests publiés dans les magazines. Votre personnalité est plus complexe que ça.
Ouais, pensez positif. Pour qui vous arrive des choses positives, ouais, je le sais.
Désolé de décevoir les fans de développement personnel. La théorie de loi de l'attraction s'inspire bien du principe d'autosuggestion qui a été démontré. Mais hélas, spiritualisée et vulgarisée à outrance, au point d'être interprétée comme pensée magique. À retenir. Le travail du mentaliste consiste à déjouer toutes sortes de techniques manipulatoires que des manipulateurs ont réussi à rendre populaires. Conclusion. Ce livre est directement inspiré de l'expérience personnelle de son auteur, Félix Boussa. Il vous propose de nombreuses méthodes et astuces pour devenir mentaliste ou plus simplement, gagner en confiance et en assurance. Car l'apprentissage du mentalisme permet également de vivre en osmose avec votre entourage, tout en ayant quelques atouts dans votre manche. Ce n'est donc pas un procédé de manipulation malhonnête, mais plutôt une démarche à la fois philosophique et sociale.
Faites attention les gars, ne vous faites pas piéger. À bientôt sur Coubeur.